Stephen King aime les fleurs, Stephen King aime les maisons hantées, Stephen King a scénarisé Rose Red, Craig Bexley l'a réalisé et en a réalisé le préquel. Et bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock. Je suis avec Chris, comme depuis 19 numéros.
C'est ça, bonjour.
C'est notre 20e, youpi.
C'est ça, bon 20e numéro.
Nous sommes toujours en confinement, on enchaîne les enregistrements de notre côté, donc bon.
Toujours, il y a des chances que les deux prochains enregistrements aient lieu, encore une fois, en état de confinement.
Faut voir, avec un peu de chance, ça ira mieux d'ici là, mais c'est pas gagné, effectivement.
Ah! La publication, peut-être, mais l'enregistrement, c'est moins sûr. Hein.
Ouais, faut compter 4 semaines à partir de maintenant, c'est... Ouais, c'est moins sûr, effectivement. Ce sera tout
c'est
juste si c'est bon.
C'est ça.
Bon, bah, toujours est-il qu'on va parler aujourd'hui du journal d'Helen Ringbauer, qui a été diffusé sur ABC le 12 mai 2003, et qui est un préquel de Rose Red, diffusé en janvier 2002 sur la même chaîne. Donc Rose Red, c'était une mini-série scénarisée par King et réalisée par Craig Bexley. Craig Bexley est toujours là pour le journal d'Helen Ringbauer, mais King n'est plus au scénario. Et je vous propose qu'on y aille tout de suite, en sachant que comme d'habitude, nous allons spoiler le contenu du journal d'Helen Ringbauer. Bon, si vous avez vu Rose Red, normalement vous êtes déjà à peu près au courant de tout ce qui va se passer.
Voilà. Et pour le coup, il n'y a pas d'œuvre papier.
Horrors.
It's Laura Mann. She's disappeared.
What?
And the murders.
You monster.
Of the legendary mansion.
You will give me a seance.
Here, in Rose Red.
I'll be damned if I have to put up with this in my own house.
You're damned already, sir.
You are a believer.
There's more to this place than meets the eye.
There'll be no more sin in this house.
The Diary of Helen Ringbauer.
Le journal d'Helen Ringbauer, ça nous raconte au début du XXe siècle l'installation dans une maison importée d'Angleterre d'Helen Ringbauer et de son mari John. Au début, tout va bien entre eux, sauf que très vite, Helen découvre que John a des penchants sexuels un peu étranges et qu'il a surtout tendance à beaucoup la tromper. Et donc, pour soulager sa frustration, elle va de plus en plus se rapprocher de la maison qui semble vivre et qui semble vouloir la protéger, elle. Mais au bout d'un moment, cette protection va devenir de la jalousie, elle va devenir de plus en plus dangereuse. Et Sukina, la servante et amie d'Helen, va tenter de la protéger de cette influence néfaste. Le scénariste de Rose Red s'appelle Ridley Pearson et il avait déjà écrit le livre dont est inspiré le téléfilm. Il l'avait écrit sous le pseudonyme de la doctoresse Joyce Reardon, qui est l'héroïne de Rose Red. Et en fait, ce livre devait à la base servir à la promo de Rose Red en 2002. King avait demandé à Pearson d'écrire quelque chose et ce dernier avait décidé de rédiger un journal d'une ancêtre des héros de Rose Red, qui était mentionné plusieurs fois dans le téléfilm. Et ensuite, King, une fois le manuscrit écrit, a eu l'idée que ni lui ni Pearson ne soient mentionnés comme auteur sur la couverture du livre, qui est donc attribué au personnage du roman. Au personnage
D'accord.
du téléfilm, pardon.
D'accord.
Le but, c'était de faire croire à un manuscrit authentique, tu sais, de monter un peu une sorte d'ambiance d'histoire vraie autour de ça.
Ouais.
Il y avait même un faux site internet de l'université où travaillait le docteur Reardon qui avait été créé à l'époque, avec des informations supplémentaires sur le manoir et sur les Rimboer. À l'époque, il y a beaucoup de gens qui ont cru que c'était King lui-même, l'auteur du journal. D'autant plus que la préface, tu sais, qui est en mode un peu comment on a retrouvé le journal, mentionnait que le manuscrit avait été découvert par un auteur de best-seller du Maine.
Ah oui, d'accord. C'est pas très discret.
Oui. Et apparemment, il y a aussi pas mal de gens à l'époque qui ont réellement cru que le journal était authentique et qui ont cherché la maison, donc Rose Red. Et un faux documentaire qui s'appelait Unlocking Rose Red, The Diary of Ellen Rimboer, qui avait été diffusé à l'époque de Rose Red aussi pour en faire la promotion, avait encore renforcé un peu la confusion de certaines personnes. C'était un mockumentaire qui disait que le téléfilm qui allait suivre était inspiré de faits réels.
Mm-hmm. Ils ont mis des petits plats dans les grands, quoi.
Ouais, avec des fausses interviews de King et compagnie. Je pense qu'on reparlera plus de ce mockumentaire quand on parlera de Rose Red. Le roman s'était d'ailleurs vraiment bien vendu à l'époque, il est même apparu pendant une semaine en tant que numéro 1 des meilleures ventes du Publisher Weekly. Donc je pense que c'est le fait que des gens aient cru que c'était écrit par King hein, qui a autant catapulté les ventes.
Oui, forcément.
Apparemment, le téléfilm a supprimé pas mal d'éléments pour une question de durée, mais il s'arrête aussi plus tôt dans l'intrigue parce que le roman aborde aussi ensuite la disparition d'Hélène et de Sukina, qui sont elles-mêmes englouties par la maison. L'auteur Ridley Pearson, c'est un auteur qui est assez actif aux États-Unis. Il a écrit beaucoup de thrillers et de romans jeunesse, mais qui, dans l'ensemble, ne sont pas traduits en français, à l'exception notoire d'une série qui s'appelle Sherlock et Moria, qui raconte les années étudiantes de Sherlock Holmes et James Moriarty.
Décidément.
Que je n'ai pas lu, mais ça a l'air très sympa. Et ça m'a fait rire parce que le titre VO de cette série, c'est Lock and Key.
Ah d'accord. Comme le fameux comics du fils,
c'est ça,
de Stephen King.
Alors en réalité, dans le comics, il y a un E à Locke qu'il n'y a pas dans les livres de Pearson, mais j'ai trouvé la coïncidence rigolote.
Bah oui, effectivement.
Les acteurs qui jouent Hélène et John dans Rose Red ne sont pas les mêmes que dans Hélène Rimboer, parce que oui, Hélène et John apparaissaient déjà un peu en flashback dans Rose Red. Par contre, celle qui joue Sukina, Tzidi Leloka, elle est présente dans les deux. Mmh. Globalement, on est sur un cast d'acteurs et actrices de télévision qui n'ont pas forcément fait grand-chose en dehors de ça.
Inconnu au bataillon.
Donc Lisa Brenner, qui joue Hélène, elle a surtout accumulé les seconds et troisièmes rôles. Steven Brandt, qui joue John, il a joué le méchant dans Le Roi Scorpion. Il a un rôle récurrent dans deux saisons de Teen Wolf, mais sinon pas grand-chose.
De la grande qualité s'il en est.
Ouais, c'est ça. Celle qui joue Connie, une amie du couple, c'est Kate Burton. Son rôle le plus visible, c'est celui de la mère de Meredith dans Grey's Anatomy.
Waouh.
Voilà. Hein. J'ai jamais regardé Grey's Anatomy, mais visiblement elle apparaît dans une vingtaine d'épisodes sur je sais pas combien, donc bon, c'est quand même un rôle secondaire. Plus rigolo, celui qui joue Doug, donc un ami du couple et l'employé de John, c'est Brad Greenquist, qu'on a déjà vu, mais je l'aurais jamais reconnu.
Ah bon ?
Ouais.
Sa tête ne me dit absolument rien.
C'est Victor, l'étudiant qui meurt au début de Cimetière et qui
Pardon
revient en fantôme.
Non !
Si.
Eh bah ! Ah oui, il a pris un gros coup de vieux.
Ah, en même temps, il y a
il y a 30 ans, même plus.
Qui sont passés. Non, pas tout à fait. Peut-être même pas 20 en réalité. C'est 89, Cimetière, je crois.
Ah oui, c'est la fin des années 80, ouais.
Il a juste pris un coup de vieux.
Bah, on dirait qu'il a pris 40 ans dans la tronche.
Bah, il est peut-être maquillé pour paraître plus jeune dans l'un et plus vieux dans l'autre aussi.
C'est possible aussi.
Mais pareil, hein, je l'avais pas reconnu, hein, je m'en suis rendu compte en faisant les recherches de ça. L'actrice la plus notoire, en fait, c'est celle qui joue la voyante, Madame Lou. C'est une actrice qui s'appelle Tsai Chin, une actrice confirmée qui, dans sa jeunesse, jouait la fille de Christopher Lee dans Les Fous Manchus, donc une méchante aussi.
Mm-hmm.
Je sais pas si t'as vu un peu Les Fous Manchus, moi ça fait partie des classiques que je n'ai pas vu.
Pas du tout, j'en ai vu aucun.
Elle joue aussi la James Bond girl Ling dans On ne vit que deux fois.
Ah, d'accord.
Et là c'est très rigolo parce qu'on la retrouve dans Casino Royale. Où elle joue une des joueuses de poker dans la longue partie de poker de Casino Royale.
D'accord, avec le chiffre...
C'est ça.
D'accord. C'est marrant ça qu'une actrice qui ait joué une James Bond girl interprète un autre rôle dans un autre James Bond des années après.
À mon avis, c'est un cas unique.
Oui, je pense aussi. Ça serait rigolo de se pencher sur la filmo des James Bond pour voir est-ce qu'il y a eu d'autres acteurs qui ont joué deux rôles différents.
Ça pourrait être rigolo. Hein, s'il y en a eu, mais ce sera à vérifier, t'as raison. Et sinon, on l'a vu aussi dans un film qui s'appelle Le Club de la Chance, qui apparemment est assez bon et assez notable. Elle est dans Mémoire d'une Geisha, bon, comme je pense à peu près toutes les actrices hollywoodiennes d'origine asiatique.
Oui, très, très souvent plutôt chinoise, alors que bon...
Ouais, c'est ça, alors que...
Le film traite du Japon.
Voilà, hein, c'est...
Parce que bon, les Américains, ils s'en foutent.
Ouais. Non, mais ça va, il y a Koji Yakusho quand même dans Mémoire d'une Geisha, ils ont mis au moins un japonais.
Tu sais que je ne l'ai pas vu, Mémoire d'une Geisha. Paraît-il qu'il est très bien, je ne l'ai pas vu.
Et elle a joué aussi dans Agents of S.H.I.E.L.D. Elle joue la mère de Melinda May, mais comme je n'ai pas vu Agents of S.H.I.E.L.D., ça ne me parle pas beaucoup.
Bah du coup, c'était de là que je voyais d'où elle venait.
D'accord.
Mais c'est vraiment un petit rôle, on doit la voir une à deux fois dans la série.
Et elle joue encore un peu dans des productions chinoises, vu qu'elle a été dans une adaptation en 50 épisodes du Rêve dans le pavillon rouge, un très très gros classique de la littérature chinoise.
D'accord.
Donc celle qui joue Sukina, Tsidi Leloka, c'est surtout une chanteuse à la base. Mmh. C'est sortie de Rose Red et d'Ellen Rimbauer, elle n'a pas fait grand-chose en tant qu'actrice. Elle a été la première interprète de Rafiki dans la comédie musicale du Roi Lion.
Oui, et... c'est ce que...
Alors du coup j'ai écouté un peu, enfin j'ai regardé des bouts de la comédie musicale, autant je la trouve assez magistrale en tant que chanteuse, autant par contre, c'est peut-être que je suis pas très comédie musicale, mais j'ai trouvé ça plus ridicule qu'autre chose au niveau de la mise en scène, tous
oui,
ces gens qui se baladent avec des espèces de peluches d'animaux, je sais qu'il y a des gros fans de cette comédie musicale, hein, mais moi j'ai trouvé que ça faisait vraiment spectacle de fin d'année de 6ème quoi, donc bon,
désolé aux fans. Je pense que je n'ai pas le public.
Peut-être pas, non, c'est peut-être ça. Dans le reste de l'équipe, on retrouve énormément de collaborateurs réguliers de Baxley et King, donc qu'on a déjà évoqué dans Kingdom Hospital et dans La Tempête du Siècle. Donc on a les producteurs Thomas Brodeck, Mark Carliner et Bruce Dunn, le directeur artistique Randy Moore, le production designer Craig Stearns, le compositeur Gary Chang, qui fait un plutôt bon boulot sur ce coup-là. En petit nouveau, on peut citer la décoratrice Brenda Meyers-Ballard, et vu que c'est un truc d'époque, elle a quand même fait un certain boulot. Il y a des matte paintings que je trouve assez jolis en plus.
Ouais, je suis d'accord.
Qui a aussi travaillé sur les séries Notorious, Breaking Bad, Les Experts, et qu'on retrouvera sur Stand By Me. Le costumier Ronald Limon, qu'on retrouvera sur Rose Red, et qui a aussi travaillé sur Blue Velvet et sur la série Man in the High Castle.
D'accord.
Et le directeur de la photo, Joao Fernandez, qui a été très actif dans le film de genre. Alors sa carrière s'est arrêtée peu après Ellen Rimbauer, mais avant il avait fait pas mal de films avec Chuck Norris, quasiment tous les films réalisés par Aaron Norris en fait.
Mm-hmm.
Et il a travaillé aussi sur Vendredi 13, The Final Chapter, et sur Les Démons du Maïs.
Ah.
Et en début de carrière, dans les années 70, c'est un gros nom en tant que directeur de la photographie dans le porno.
Ah, alors vas-y, quelques titres dans lesquels il a participé.
Oh bah attends, je peux vérifier sa fiche Wikipédia.
Qu'on se marre un petit peu, parce que bon, les titres de films porno, c'est toujours une grande aventure.
Alors, on peut citer, c'est les titres anglais, hein, désolé, parce que ça s'exporte pas forcément très bien. The Spy Who Came. Parce que tout comme, ça veut aussi les réjouir.
Oui, oui.
Ouais, voilà, c'est drôle. Love Toy.
Ouais, bon, classique.
Ouais. Selling It. Ah, Gorge Profonde, c'est lui.
Ah, d'accord.
Mammal's Story. Et on peut citer Wet Rainbow aussi, je trouve que c'est un joli titre.
Effectivement, c'est joli.
Taking of Christina.
Alors, c'est joli si on... Sauf qu'on sait que c'est du porno, quoi.
Oui, c'est ça. Electrochoc, Sex Boat... Et un petit dernier que je trouve très joli, Psychose et fantasmes sexuels de Misagi. Voilà, au moins on sait ce qu'on va acheter là.
Effectivement, ouais, c'est très niche.
Ouais, voilà, c'est. Bon, en même temps, c'est du porno, quoi, je veux dire. C'est un peu niche de base quand même.
Voilà, c'était la parenthèse porno.
Donc voilà, bon, sur Ellen Rimbauer, on va pas se mentir, je trouve pas qu'il fasse un travail fifou. Hein.
Mm.
La photographie est quand même très 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 banale.
Ouais, c'est très quelconque.
Le film est accueilli de façon assez mitigée, il y a certains critiques qui le trouvent plutôt efficace ou qui signalent au moins la performance des deux actrices principales, mais globalement il est considéré comme peu effrayant, peu efficace dans l'ambiance et doté d'un scénario assez faible. Et visiblement, les coupes faites à l'intrigue du livre sont trop importantes et sont responsables du fait que des fois l'intrigue est un peu bancale. Apparemment ça tient beaucoup plus debout dans le roman.
D'accord.
Actuellement, il a 2,8 étoiles sur Allociné, ce qui le place 10e ex aequo du classement de ce qu'on a vu avec Jesse, et 17% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui le place 17e.
Encore une surprise ?
Attention !
Il y a un fusil !
Elle abritera notre bonheur. Si toutefois, vous voulez de moi.
Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qu'il y a ?
Il a tué O'Reilly !
Pas d'inquiétude, John. On s'en occupe.
Quel étrange moment. Serait-ce un signe ? Faut-il voir un signe du destin ?
Non, en aucun cas, ce n'est rien. Juste une querelle d'ivrogne sans grande conséquence. Ces ouvriers sont irlandais.
Ce n'est rien. Pouvons-nous en être sûrs ?
Voulez-vous être ma femme, Hélène ?
Et donc moi, c'est tout ce que j'ai à en signaler. On va pouvoir passer à nos avis. À toi l'honneur.
Écoute, je suis d'accord pour dire que le duo d'actrices est très très bon. Et je suis d'accord aussi pour dire que le film n'arrive pas à créer de moments d'angoisse pure. Mais est-ce que c'était vraiment le propos du film ? C'est surtout ça. Parce que, en petit film fantastique qui installe des ambiances, je trouve que ça réussit plutôt pas mal, en fait.
Ouais, je suis moyennement d'accord. Je trouve que, en fait, il y a des moments où ça marche, il y a des scènes qui marchent. Le principe est intéressant de cette relation entre Hélène et la maison qui est de plus en plus addictive, mais je trouve que c'est peut-être trop court, on ne les voit pas assez... on ne voit pas assez Hélène dans la maison pour ressentir, elle, sa fascination et, de la part de la maison, une jalousie qui deviendrait dangereuse.
Alors pour le coup, ça aurait gagné une bonne petite demi-heure en plus. Hein. Le film dure un peu moins d'1h30.
Ouais.
Là, pour le coup, ça aurait peut-être gagné de durer plus. Mais non, il y a des moments où Baxley arrive à créer une bonne ambiance. Je pense notamment le passage où ils sont dans le cellier, où ils sont entourés de carcasses d'animaux qui sont en train de farfouiller pour trouver les secrets de la maison. Je sais pas si tu vois le passage.
Globalement, tous les moments où ils explorent la maison, je les trouve chouettes. Hein, parce que Craig Baxley sait filmer son décor.
Voilà, c'est des passages qui sont plutôt réussis, les quelques passages où la maison se manifeste le sont aussi.
Oui, la disparition de la fille, je la trouve très bien.
Ouais, il y a des personnages qui fonctionnent, le fameux oncle Doug, je trouve que le personnage est plutôt intéressant, plutôt attachant.
Oui.
Notamment le passage où il va mettre fin à ses jours en se pendant, il y a une petite scénette qui intervient juste avant, les gosses le surprennent alors qu'il est prêt à se suicider, et lui leur propose une partie de cache-cache, et ça amène une scène assez touchante qui est plutôt bien filmée.
Ouais.
Entre les trois protagonistes, vraiment ça fonctionne plutôt bien, les relations entre personnages fonctionnent bien.
Ça m'aurait un peu fait marrer que les gamins se disent c'est juste qu'ils ne nous trouvent pas et qu'ils restent trois jours cachés.
Alors c'est dommage que l'ambiance musicale soit nulle, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot.
Oh,
ça fonctionne pas.
Vraiment pas désagréable, moi, la BO de Baxley sur celui-là.
Oh,
assez ordinaire, mais pas désagréable.
Ouais, mais vraiment, ça participe pas à faire monter une ambiance qui, visuellement, commence à être intéressante, mais va jamais jusqu'au bout, en fait.
Ouais, les coupures pub n'aident pas non plus. Hein. Bah, dans le cas de la disparition de la fille, justement, il y a une coupure pub qui intervient juste après et qui fait complètement retomber le soufflet.
Ouais, encore une fois, les fameuses coupures pub dues au format téléfilm, ça pèse. Hein. Mais pour moi, c'était vraiment pas un mauvais moment. C'est un téléfilm plutôt honnête qui arrive à créer des bons moments. Alors oui, ça n'a rien d'effrayant, mais je pense vraiment que c'était pas le but, en fait.
Je pense aussi que c'était pas le but. Le souci, c'est que, du coup, quel était vraiment le but ? J'ai plus de mal à le déterminer.
Bah, de faire une préquelle explicative sur la maison. Mais le problème, c'est que vu qu'on n'a pas vu on n'a pas vu la mini-série avant, forcément, on loupe des éléments, je pense.
Je pense, mais je trouve que... Enfin, s'il y avait eu, comme tu le disais, une demi-heure de plus pour mieux voir la maison, qui est clairement le personnage principal du film, ça aurait été plus efficace parce que, voilà, toutes les scènes où Craig Baxley doit filmer les personnages qui explorent la maison, elles marchent. Toutes les scènes où la maison doit intervenir, elles marchent. Le souci, c'est qu'il y en a très peu. On ne voit pas, je trouve, la relation entre Hélène et la maison vraiment se développer. Il y a un moment Sukina qui nous dit que Hélène est devenue totalement accro à cette maison. Ou alors c'est Hélène elle-même qui le dit qu'elle doit s'en éloigner. Mais j'avais pas ressenti ça du tout, moi.
C'est ça, il y a plus de scènes qui développent la relation entre Hélène et son mari plutôt que entre Hélène et la maison, ce qui est dommage. Mmh.
Sachant que là, pareil, en fait, elle est un peu ambiguë, la relation entre Hélène et son mari. J'arrive pas à savoir jusqu'à quel point exactement John est abusif. Pendant une partie du temps, j'ai l'impression que son seul tort, c'est de tromper sa femme à tout va. Ce qui est, bon, salaud, mais ça fait pas de lui un criminel, quoi.
Mmh. C'est, oui, de tromper sa femme à tout va, ou alors d'avoir des envies de jeu sexuel un petit peu disproportionnées.
Oui, aussi. Mais là, pareil, le seul qu'on nous montre, la disproportion est quand même relativement modérée, c'est...
Bah, encore une fois, et même problème qu'avec Carrie, en fait, c'est qu'on est sur un network grand public, on est sur ABC, donc faut pas en montrer trop. Et donc, bah, du coup, c'est plus supposé que montré, sauf que, bah, face à un produit tel que celui-là, bah, normalement, on devrait plus montrer, pour le coup.
Bah oui.
C'est ça le souci.
D'ailleurs, en effet, la seule scène un peu érotique, c'est celle avec les glaçons.
Oui.
Et donc oui, comme tu disais, c'est du IB production, Hélène et les glaçons.
La vache.
Je tenais à la placer.
Elle est magnifique, bravo. Mais j'aimerais quand même saluer un petit point, c'est qu'on est face du coup à une préquelle, mais que même si on n'a pas vu la mini-série originale, on perd pas grand-chose au final, c'est quand même un film qui peut s'apprécier en tant que tel.
Ouais, mais moi qui m'a quand même laissé un gros goût d'inachevé quoi au final.
Ah ben oui, mais clairement, on prendra beaucoup plus de plaisir du coup, maintenant qu'on a vu la préquelle, quand on verra Rose Red, je pense qu'il y aura des éléments qui nous sauteront au visage, mais le téléfilm peut quand même être vu, même sans avoir vu Rose Red.
Oui.
Ben, être vu et compris, et ce qui n'est pas forcément tout en le cas lorsqu'on parle de préquelle.
À quelques éléments près, parce que finalement, on ne sait pas bien exactement ce que fait le mari avec les prostituées, j'imagine, qu'il ramène dans sa cave. Est-ce que c'est juste du masochisme ou est-ce qu'il les tue ?
Ah, ça, on doit le savoir plus dans Rose Red, je pense, effectivement.
Je suis même pas sûr, hein. Peut-être que c'est dans le roman, mais que ce sera pas trop réabordé ensuite.
Ouais, ça serait les coupes du roman dont les gens parlent, dont les critiques ont mentionné.
Ouais. Alors, pour le coup, on sait ce qu'il est devenu, mais il est quand même bien évacué de l'intrigue, le fils de John et Hélène. À un moment, on dit qu'il est en foyer, mais on n'en reparle pas du tout par la suite.
On n'en reparle qu'à la fin, quand elle dit qu'elle veut récupérer son fils, après la mort du mari. C'est tout.
Alors qu'il y avait un truc intéressant qui commençait à s'installer avec le fils qu'Hélène voyait devenir de plus en plus comme son père, à se moquer de sa sœur et à la ridiculiser parce qu'elle est handicapée.
Ça aussi, ouais, c'est intéressant.
Ça aussi, elle aurait mérité d'être plus développée, la gamine.
C'est ça. Mais c'est comme, au final, c'est comme la maison qui, du coup, au début, est une entité, alors certes hantée, mais plutôt positive envers Hélène, qui au fur et à mesure devient possessive et bah du coup en fait prend les traits du mari. Oui. Mais du coup c'est pas du tout développé.
Ouais, c'est ça.
Dommage. C'est dommage parce que tu sens qu'il y a de l'idée, mais ça va jamais au bout.
Alors pour le coup, par contre, en magnifique plan, c'est justement la première fois qu'on voit la maison. C'est pour ça que je parlais des matte painting. Je trouve le premier plan sur la maison en travaux absolument magnifique.
Ouais.
C'est pour dans un téléfilm comme ça, je m'attendais pas à ça pour vraiment.
Oui, surtout que le reste du téléfilm, bah ça sent pas forcément l'argent quoi.
Oui, je pense pas qu'ils avaient un énorme budget.
Et ça se voit quand même. Alors c'est quand même moins flagrant que Carrie qu'on a traité il y a 15 jours, parce que au moins ça veut pas faire dans l'extravagant et à foutre de l'effet spécial à tout va.
Ouais, il y en a pas beaucoup.
Bah oui, il y en a pas beaucoup, et puis quand il y en a, c'est pas des trucs incroyables à faire, quoi.
Oui,
ça reste très terre à terre, et je pense que Baxley sait très bien que ça sert à rien d'en faire trop. Je pense que Bah, ils commencent à avoir l'habitude maintenant.
Il avait peut-être appris la leçon des effets dents de la tempête du siècle.
Voilà, c'est ça. Les effets de la canne de la tempête du siècle, oui, par exemple. Pour ne citer que cela.
En fait, c'est vraiment dommage, hein, parce que ça aurait pu être très bien s'il y avait eu un peu plus d'argent et un peu plus de temps. Et là, on sent des prémices de trucs, mais qui sont pas assez développés.
En fait, ça aurait peut-être même gagné à plus que d'être un simple téléfilm, à être une autre mini-série préquelle.
Oui, voilà, c'est ça, le traiter vraiment comme un truc à part entière. C'est dommage, en fait, c'est ça que ça m'a laissé, moi, comme sentiment au final, ce qui est en même temps peut-être un peu positif, parce que ça veut dire que j'ai trouvé des trucs intéressants en même temps.
Donc... Oui, bah clairement, bah, comme moi, comme je l'ai dit, hein, c'était vraiment pas un mauvais moment à passer. Mm-hmm. La critique mentionne surtout le duo d'actrices, mais je trouve globalement que tous les acteurs sont bons.
Oui, oui, pareil.
L'acteur qui interprète le mari, il fait très bien le salaud.
Ouais, ouais, ça fait un peu personnage sorti d'une version soft du Marquis de Sade.
Ouais, voilà, c'est ça.
Il y a la photographie, moi, qui m'a quand même fait un peu bizarre. On dirait qu'elle veut donner un côté flashback, justement, pour dire qu'elle est dans un préquel. Elle a un petit côté sépia, un peu étrange.
Oui, je vois tout ça, ce que tu veux dire. C'est ces effets que les téléfilms ou les séries télé années 90 faisaient souvent.
Ouais, c'est ça. Mais du coup, sur tout le téléfilm, ça n'a pas vraiment de sens.
Qui c'est ? C'est oncle Douglas.
Oh, les enfants. Mais qu'est-ce que vous faites là tous les deux ? Vous n'êtes pas encore couchés ?
Mais on a envie de s'amuser avec toi, oncle Doug. S'il te plaît.
Oh, ouais. D'accord. Alors, si vous voulez qu'on joue, qu'est-ce que vous diriez d'une partie de cache-cache, hein ? D'accord ? Bon,
oui.
Je vais compter jusqu'à 10 et tous les deux, vous allez vous cacher. Mais avant, je crois que j'ai besoin d'un beau câlin, d'accord ? Oh. Allez, cachez-vous, vite ! Un, deux, trois.
C'est pareil, autre chose qui n'a pas du tout été exploitée, alors je passe du coq à l'âne. Sur tout le début du téléfilm, on te sous-entend que le mari fait des trucs pas clairs, mais aussi on te sous-entend peut-être que le mari aurait peut-être un petit côté surnaturel. Tu vois, genre que ça pourrait être un entre gros guillemets, un envoyé du diable, quelqu'un de possédé, oui, qui pratiquerait des rites ou de la magie noire, et au final, c'est balancé, et puis, on n'y revient plus, quoi.
En fait, ça aurait pu être intéressant de pas apporter les réponses à toutes ces questions-là, mais de plus les mentionner quand même, quoi, que les questionnements reviennent, parce que là, ça donne vraiment l'impression de bout d'intrigue abandonné.
Oui, voilà, c'est ça. Ce qui est peut-être le cas, hein. Peut-être que c'était prévu, ça a été coupé, on sait pas.
D'ailleurs, même la MST du mari, en soi, elle est quand même très anecdotique dans l'intrigue au final.
Oui, c'est vrai qu'on te fait une scène entière consacrée à ça, parce que c'est la scène qui amène la rencontre entre les deux protagonistes féminins principaux, ouais. Et puis au final, on s'en fout.
Oui, c'est ça. Bah, à la fin, c'est rementionné un peu comme une des causes de la folie du mari, mais c'est très, très secondaire.
Bah oui. Enfin voilà, c'était pas un mauvais moment, mais c'est vrai que... il manque des choses.
Ouais.
Il y a une impression de manque.
Alors, un petit moment que j'ai trouvé quand même un peu ridicule, mais c'est le seul, vraiment j'ai eu ce sentiment-là. Lors de la scène d'accouchement d'Hélène, quand John et le chirurgien vont discuter en dehors de la chambre pour dire « elle survivra pas », on passe instantanément des cris de douleur d'Hélène au soulagement complet, au silence complet. Et en fait, le chirurgien se rend compte immédiatement que le silence s'est fait. Et j'ai trouvé ça un peu ridicule parce qu'il n'y a aucun moment pour le spectateur d'intégrer l'information que quelque chose a changé.
Ouais.
Donc finalement, quand il rentre dans la chambre, je trouve que l'effet... on a l'impression qu'il est sorti comme un bouton de champagne, le gamin, et que tout de suite, il n'y a plus de douleur du tout. Alors qu'en réalité,
peut-être
je pense
le cas,
que c'est
ça.
Comme ça. Et surtout, un gamin, quand ça sort d'un ventre, ça braille, normalement.
Bah là, il braille, après.
Pas beaucoup, hein, il est très calme.
Ouais. Il me semble qu'il y a silence et après tu l'entends pleurer, mais enfin, pas immédiatement, quoi. Mm. Non, à la limite, il y a... Oui, en scène ridicule aussi, t'as l'effet spécial à la fin, sur le vitrail, avec la tête de la gamine qui fonce sur son père.
Oui, effectivement, oui. Mais j'ai réussi à faire abstraction de celui-là, encore.
L'effet est un petit peu ridicule, et puis après, t'as le mari qui est propulsé à l'extérieur de la tour, bon.
Ouais. Bah, le final est un peu rapide, hein.
Oui, c'est très expéditif. Mais encore une fois, oui, ça, c'est la faute au format, et ça aurait gagné à être plus long. On y revient.
Ouais. C'est dommage parce qu'en plus, un truc de maison hantée, en soi, c'est vraiment le bon format pour réussir à faire du télévisuel sans avoir à montrer des trucs trop trash, en fait.
Surtout que pour le coup, ça part d'un postulat, entre guillemets, original, puisque c'est une maison hantée qui, au début, est plutôt positive.
Oui.
Qui se transforme, de fur et à mesure, en être maléfique. Donc ça aurait été intéressant de beaucoup plus se concentrer sur ça.
Notre bilan, c'est que c'est agréable, mais que c'est un peu frustrant.
C'est ça.
Qu'est-ce qu'on fait, on passe à une petite scène ?
Ouais, bah je pense qu'on peut passer à ça, hein. on a fait le tour. Hein.
Allons-y. Très bien, donc la scène que nous allons aborder, c'est une scène qui se situe un peu après le milieu du film, où Madame Lou, une voyante, est appelée pour voir la petite fille d'Hélène, parce que suite au suicide de Doug, justement, qu'on a déjà évoqué, cette petite fille ne parle plus, elle reste totalement muette, et donc Madame Lou vient voir ce qui se passe, voir s'il n'y a pas un problème plus profond, un problème un peu paranormal autour de tout ça.
Voir si la gamine n'a pas vu le loup.
Oh là 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 là. C'est parti pour l'extrait.
Tu as vu un monsieur qui venait de se tuer, n'est-ce pas? Et depuis ce jour, tu n'as pas dit un seul mot. Maman Lou sait que tu es une enfant intelligente, jolie April. Et si tu ne parles pas, c'est parce que toutes ces questions sont restées sans réponse. Est-ce que Maman Lou a raison?
Quelle question? J'ai essayé de lui expliquer de 10 façons différentes.
Les questions, les voici. S'il arrive à t'entendre sans que tu aies besoin de parler, pourquoi pas eux? Tu te dis que c'est peut-être parce qu'ils ne t'aiment pas assez.
Rien ne saurait être plus loin de la vérité.
Mais peut-être ne savent-ils pas écouter aussi bien que toi? Peut-être ne sont-ils pas assez attentifs? Ou peut-être ne sont-ils pas tout à fait normaux puisqu'ils ne t'entendent pas?
Vous n'êtes pas en train de dire que...
Tu vois, elle voudra jamais me croire.
Elle te croira. Seulement, il faut que tu lui expliques. Sais-tu que la Dame Noire te croit? Et que Maman Lou te croit aussi? Vas-y, dis-lui.
Oncle Doug et moi, on discute dans nos têtes.
Et il vous arrive de jouer ensemble également?
Il adore être ici.
Il a construit Rose Red. Il ne te l'a jamais dit.
Rose Red dit que c'est toi, maman, qui l'a construite.
Elle dit ça.
Et elle dit aussi qu'elle t'aime, maman. Au moins autant que je t'aime et peut-être plus encore.
Très bien, donc Christopher, qu'as-tu à dire de cette scène?
C'est une scène où le spectateur déjà commence à comprendre que la maison n'est pas forcément que positive.
Oui.
Qu'elle est en train de sombrer du côté obscur de la force, pour reprendre une expression connue, citée dans un petit film que pas beaucoup de monde en vue.
Je vois pas trop.
N'est-ce pas ? C'est une scène qui se concentre sur les personnages. Sur les personnages qui sont plutôt attachants. Moi, en fait, il y aurait un truc que je pourrais énumérer qui est un cliché du cinéma. C'est que à chaque fois, les personnages qui ont conscience des choses fantastiques et qui se passent des choses dans un autre monde, c'est à chaque fois des gens racisés. c'est le monde occidental blanc qui voit les gens racisés comme de l'exotisme et que seuls eux sont capables de voir le paranormal, tu vois ce que je veux dire?
Oui, dans l'idée, ces cultures sont restées plus proches de leurs racines, sont restées plus proches de la tradition, de...
Voilà, c'est un cliché qui...
un cliché, mais...
Vieux comme le monde qui qui a tendance à me sortir par,
oui.
Par les yeux. Mais après, ça fonctionne.
On a échappé au pire, hein. Ils n'ont pas collé d'accent ni à Sukina ni à Madame Lou.
C'est vrai. Mais voilà, la scène fonctionne. Pour ne pas que la maison entende, ça aussi c'est intéressant le fait que la maison entende, vraiment que la maison soit vraiment vue comme une entité et comme un être humain en fait finalement, à part entière. Ils décident de s'éloigner, donc ils vont dehors, mais en fait on se rend compte qu'ils ont parlé au-dessus d'une aération, donc finalement la maison a entendu. Donc ça amène un petit peu d'angoisse à la séquence où les deux personnages se croyaient en sécurité finalement. Donc c'est bien amené tout ça en fait, montrer que la maison pourrait très bien devenir maléfique. Spoiler, c'est ce qu'elle devient.
Oui, bah, c'est bien amené, mais encore une fois, ça aurait dû être amené un peu, enfin dans la mise en scène un peu avant, avec des scènes où réellement on sent que Hélène, enfin que la maison est jalouse de l'amour qu'Hélène porte à ses enfants.
Oui, voilà, c'est ça.
Surtout qu'après la disparition de la gamine intervient vraiment juste après, donc il n'y a pas de répit.
Oui, parce qu'en plus c'est une séquence qui apparaît à un moment assez avancé du film. Hein.
Oui, on est déjà assez loin, oui.
Parce que globalement, le film perd beaucoup de temps au début, en fait, à installer la relation entre Hélène et son mari.
Ouais, et en même temps, ça le fait quand même très rapidement, quoi. C'est juste qu'il y avait énormément de choses à dire en peu de temps.
Ils perdent un petit peu de temps sur le tour du monde, enfin le simili-tour du monde qu'ils font, sur la construction de la maison. La construction de la maison, on voit qu'il se passe des trucs bizarres avec l'un des ouvriers qui en abat un autre, on sait pas pourquoi finalement. Mais après ça joue sur le côté mystérieux de la maison. C'est des trucs en fait. Alors la construction de la maison, ils auraient même dû plus s'y concentrer, parce que c'est vrai que le détour par l'Afrique, mis à part pour rencontrer Sukina, bah ça sert pas à grand chose finalement.
Bah, c'est donc, son seul intérêt, oui.
Limite ça aurait pu même être zappé, on s'en foutait en fait.
Oui, en remplaçant. En disant que Sukina était déjà là avant, oui.
Ça voilà, c'est ça.
Grand-chose, en effet.
C'est ça. Donc ouais, le film perd pas mal de temps, en fait, au début, à instaurer une relation qui, au final, ne sert pas plus que ça le reste de l'intrigue. Il y avait moyen de montrer que le mari est un salaud, autre que de passer 30 minutes à te montrer que c'en est, en fait.
Oui. Ce qui est suggéré autour de ces jeux SM avec des prostituées est intéressant, donc ça, pourquoi pas le garder. Mais sinon, en fait, le moment où on voit le mieux que c'est un salaud, moi je trouve que c'est justement tout ce qu'il y a avec Doug. Parce qu'en fait, si Doug se suicide, c'est parce que John l'a surpris avoir une relation homosexuelle.
Ouais, c'est ça.
Il a trompé sa femme au passage, mais visiblement, elle était parfaitement au courant et plutôt d'accord.
Oui, et puis ce que le mari apprécie pas, c'est la relation homosexuelle, plus que,
oui, c'est ça,
que Doug trompe sa femme.
Oui, bah en même temps, ça aurait été quand même l'hôpital qui se fout de la charité, quoi.
Oui.
Donc oui, et on voit bien que c'est un salaud, parce qu'il dit soit vous démissionnez, soit je dévoile tout et vous approchez plus de mes enfants et compagnie. Donc c'est pour ça que Doug se suicide, et après le mari a l'air d'en avoir rien à foutre de ça en plus.
Oui, complètement.
Ni de l'effet que ça a sur ses enfants, du fait que sa fille soit visiblement traumatisée. Donc oui, c'est un beau moment, cette scène-là. Mais voilà, en fait, c'est une bonne scène, mais elle arrive en nous donnant des informations qu'on aurait dû déjà avoir, quoi.
C'est ça.
Mais ça montre bien que, en fait, plein de trucs du téléfilm pris isolément fonctionnent. C'est l'ensemble qui a un peu plus de mal.
Par manque de temps, principalement. C'est vraiment ça, en fait. Le vrai souci, c'est le manque de temps. C'est pour le... On a l'habitude de critiquer pas mal de films... dans le sens où ils sont trop longs, bah du coup, lui, en fait, il a pas pris le temps qu'il aurait dû prendre.
Oui, pour une fois que c'est dans ce sens-là. Mais je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y a à en dire. Et qu'on va pouvoir noter ça, classer ça.
C'est ça.
Très bien, bah c'est parti pour le classement, alors. Donc c'est parti pour le classement, pour le deuxième épisode de suite, il n'y a pas de livre à classer. Le classement des films, nous avons en premier Carrie de Brian De Palma, suivi de Chambre 1408 de Michael Avstrom et de Cujo de Lewis Stig, et aux trois dernières places, Les Démons du Maïs de Donald P. Borcher, Jesse de Mike Flanagan et Le Fléau de Mick Garris en 19e.
Et du coup, où placerais-tu le journal d'Hélène Rainbauer ?
Mmh.
Veux-tu un début de piste?
Alors, je vais déjà te dire moi où je l'aurais placé. Je pense que je l'aurais mis, en fait, juste derrière la tempête du siècle.
Putain, c'est exactement l'endroit que j'allais dire. Pour moi, c'est soit entre la tempête du siècle et la dernière affaire d'Humney, soit juste en dessous de la dernière affaire d'Humney.
On va dire que...
Parce que...
Pour la performance d'acteur plus globale, je mettrais Ellen Rimbauer au-dessus. Mais ça joue à pas grand-chose.
Ouais, voilà, c'est ça. Parce que j'ai quand même pris beaucoup de plaisir devant cet épisode-là de Rêve et Cauchemar. Pareil, la performance de l'acteur principal de la dernière affaire d'Humney est vraiment chouette.
Oui.
Mais du coup, oui, là, on a deux très bonnes actrices qui portent en fait le téléfilm à elles seules, quasiment. Hein.
Bon, et même le cast secondaire, comme tu l'as signalé, il est loin d'être honteux. Hein.
Ah oui, tout le monde est bon. Hein. Mais clairement, comparativement à une autre réalisation de Baxley, La Tempête du Siècle, c'est supérieur, ça.
À La Tempête du Siècle, un meilleur scénario, malgré la fin relativement ratée.
Voilà. Alors, ça a des effets spéciaux un petit peu plus cheap, et il y en a un petit peu plus, du coup, mais bon, tant pis. Hein. Ça reste quand même mieux maîtrisé que le journal d'Ellen Rimbauer.
Bah, c'est en question de temps, principalement. On avait signalé des longueurs dans La Tempête du Siècle, mais en même temps, ça avait aussi plus de temps pour développer ses personnages, pour installer la tension. Là, soyons honnêtes, si Rose Red est du même niveau qu'Ellen Rimbauer en termes de gestion de l'espace et compagnie, je pense que ça arrivera à une vraiment bonne place.
Oui, voilà, c'est ça. Non, moi, ça me paraît bien, du coup. C'était la place que j'allais suggérer, donc... Entre La Tempête du Siècle et La Dernière Affaire d'Humney. C'est du coup la troisième œuvre de Baxley dans notre classement.
Oui, et je signale à propos de Baxley que c'est la troisième œuvre dans notre classement et qu'il n'a aucune apparition en dessous de la moitié.
C'est vrai.
Il est dans le top 10 à chaque fois. Donc, et même à des places assez proches. Enfin, 9e et 10e place pour La Tempête du Siècle et le journal d'Ellen Rimbauer. Mais 4e place toujours pour Kingdom Hospital, qui tient bien le coup depuis quelques épisodes.
C'est vrai.
Donc globalement, on cite souvent plus Mick Garris dans les adaptateurs télévisuels de Stephen King, mais pour l'instant, celui qui nous a le plus convaincu, c'est Craig Baxley.
Parce que, ouais. Et puis Mick Garris, par contre, est champion du plus grand écart.
Oui, effectivement, il est à la 8e et à la 20e place.
Voilà. Lui, c'est le nouveau... C'est le Van Damme des adaptations.
C'est ça, le super beau grand écart. Dans les autres adaptateurs renommés de King qui en ont fait plusieurs, bah nous, on a Mike Flanagan, il est en 19e.
Donc... Ah mais voilà, parce qu'on n'a pas encore adapté d'autres œuvres de lui.
Ouais, mais bon, soyons honnêtes, son autre, je l'aime pas du tout non plus, donc bon.
Ah mais je ne l'ai pas vu, donc ça fera la différence peut-être.
Peut-être, peut-être. Donc voilà, une bonne petite surprise pour ce que j'en attendais. Absolument rien d'Ellen Rimbauer pour le coup.
Oui voilà, à moi, je m'attendais à avoir deux mauvais trucs entre Carrie et celui-là, et puis bah, finalement...
Ouais, on est dans le milieu pour les deux.
Voilà.
On va pas se plaindre, comme quoi ce podcast nous réserve peut-être des bonnes découvertes.
Voilà, enfin bon, on va voir...
On va voir tout de suite la suite, ouais.
Avec le tirage au sort que l'on s'apprête à faire.
Alors, bah... Normalement, ça devrait être à toi de tirer le premier, donc je vais faire comme la dernière fois, agiter les papiers et tu me dis stop.
D'accord. Stop.
Alors, j'ai un papier.
Et moi, j'ai peur.
Fallait pas
ah, tu rigoles,
tombe.
C'est pas bon signe.
Les démons du maïs, 4. 4, attention, la moisson, réalisée par Greg Spence.
Oh non. Oh, je suis sûr qu'il est nul à Yesh.
Ah bah, je crois que le 4, c'est l'époque où ça commençait à être des trucs de vidéoclub, en plus. Donc,
non.
Ça va être un truc miséreux, absolument dégoûtant.
Oh, ça doit être un vieux direct ou vidéo bien pourri.
Enfin, je pense que mon loyer, c'est plus cher que le budget de ce film, tu vois.
Et donc, ouais, mais en même temps, tu vis dans un palace.
Ah oui, c'est... Moi, je me sens pas confiné, d'ailleurs. Hein. Je me perds dans mon appart à chaque fois. Et donc, moi, je prends... Alors... Trucks, les camions de l'enfer, de Chris Thompson. C'est une adaptation de la nouvelle Poids Lourd, qui a aussi eu une autre adaptation, Maximum Overdrive.
Oh là 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 là. Oh là là. Les deux chefs-d'œuvre qu'on va aborder.
Ah ouais là.
Oh là là.
Si on reste en milieu de classement avec ces deux-là, je serais quand même vraiment très très surpris.
Oh, la fin de classement va être bousculée là tout d'un coup.
Donc, ben voilà, on se retrouve dans 2 semaines pour les démons du maïs 4, la moisson.
J'ai hâte.
Dans 1 mois pour Trucks, les camions de l'enfer. Rien que les titres sont magnifiques.
Extraordinaire.
En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux.
@ cinéma archiviste pour toi, @ au gré des bulles pour moi sur Twitter.
Moi, je suis aussi sur Facebook, l'archiviste du cinéma, et j'ai une chaîne YouTube inactive depuis un moment, mais n'hésitez pas à aller faire coucou.
Aller faire coucou et faire des chouettes commentaires et des pouces.
Oui, pour peut-être me redonner envie de finir de monter un épisode en cours depuis des mois et des mois.
Alors des pouces bleus de préférence.
Oui, sinon abstenez-vous.
Voilà.
Vous pouvez aussi nous retrouver sur Discord, Gamers Bizarre Adventures, on mettra le lien dans la description.
Oui, on le met à chaque description de podcast.
Oui, voilà. Les deux autres podcasts, je te laisse les présenter.
Casse sur table, sur l'actualité manga, comics, BD, et La Guerre des Clapes, sur le cinéma. Et vous pouvez aussi maintenant laisser des commentaires et des notes sur l'application Podcast Addict. Donc vous pouvez nous laisser plein de notes et plein de commentaires
et
sur tous nos podcasts.
Et n'hésitez pas à partager le podcast pour le faire découvrir à d'autres personnes. C'est très important et ça nous fera très plaisir.
C'est ça.
Et en attendant, ben, n'oubliez pas que le Vidéoclub de Castle Rock est ouvert
7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
À très bientôt.
Salut.